Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 15 juillet. Les Lyonnais et les Lyonnaises qui font partie de la promotion du 14 juillet. L'archevêque de Lyon est promu chevalier de la Légion d'honneur. Lyon n'est pas en reste en termes d'apiculture. Les ruches se retrouvent jusqu'en ville. Pour tenter de comprendre comment fonctionne une ruche, nous sommes allés à la rencontre d'Alain Chevalier à la ferme de la Croix-Rousse. Une boutique éphémère dans le 2e arrondissement avec des maillots de foot vintage. Les passionnés vont s'y ruer à partir d'aujourd'hui. Et puis Lyon qui fait son entrée dans le top 20 mondial des meilleures villes au monde. Et Lyon termine par exemple loin devant Paris.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 6 semaines après l'apparition de la 7e vague de Covid, la progression de l'incidence des infections dans la région marque un ralentissement. C'est le constat de Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire portant sur la période du 4 au 10 juillet. Dans le Rhône, le taux d'incidence s'élevait le 13 juillet, donc mercredi, à 1341 cas pour 100 000 habitants, après une augmentation faible de 8,4% en une semaine. Ce taux opère surtout un léger fléchissement ces derniers jours, qui pourrait signifier donc que le pic des contaminations de cette 7e vague a été atteint dans notre département, comme cela semble aussi être le cas en région parisienne. Les hospitalisations restent, elles, sur une courbe ascendante, mais mesurée, avec en moyenne 35 nouveaux cas hospitalisés chaque jour dans les établissements de santé du département. 448 patients Covid+, étaient hospitalisés mercredi dans le Rhône, dont 22 dans des services de réanimation. Le nombre de nouveaux patients graves admis dans ces services reste stable, 3 en moyenne chaque jour. Les Lyonnais et les Lyonnaises qui font partie de la promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur, promotion publiée hier bien sûr au journal officiel. Olivier de Germay, l'archevêque de Lyon depuis décembre 2020, a été promu chevalier de la Légion d'honneur. L'ancien évêque d'Ajaccio avait dès son arrivée à Lyon annoncé vouloir mettre fin au silence sur la question des abus sexuels dans l'église. Le recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Gabriel Fioni, est également promu chevalier de la Légion d'honneur, tout comme Corinne Dupont, première sage-femme, nommée professeure des universités en France. Elle a pris ses fonctions en septembre 2021 à l'université Claude Bernard, au sein de l'unité de formation et de recherche, faculté de médecine et de maïeutique, Lyon Sud.
Lyon Demain, découverte.
Les Français consomment 40 000 tonnes de miel par an et Lyon n'est pas en reste en termes d'apiculture. Les ruches se retrouvent jusqu'en ville pour produire du miel, mais aussi pour montrer aux enfants et à leurs parents la vie complexe des abeilles que l'on dit souvent menacées. On parle de nymphes, de reines, de faux bourdons. Pour tenter de comprendre, nous sommes allés à la rencontre d'Alain Chevalier. Cet apiculteur a installé 2 ruches en plein cœur de la ville, à la ferme de la Croix-Rousse.
La vie d'une ruche est un peu complexe. Alors déjà, on a 3 types d'abeilles dans une ruche. On a la reine, la grande patronne de la colonie, on a les ouvrières en grand nombre, on peut avoir des dizaines de milliers d'ouvrières, jusqu'à 40 000, 50 000, 60 000 en plein été, et puis les mâles, les faux bourdons, qui peuvent être jusqu'à 2 ou 3 000 en saison. Et puis après, donc, lorsque la fin de saison arrive, les ouvrières se débarrassent des faux bourdons, malheureusement pour eux, parce que voilà, ce serait des bouches à nourrir et il faut s'en séparer avant la fin de l'été.
Quel est le rôle de la reine et toute la colonie autour?
Alors la reine, elle pond essentiellement. C'est la mère de toutes les abeilles de la ruche, donc, et elle peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour en pleine saison, à partir de mars, avril.
Et sans forcément avoir un mâle, hein?
Sans forcément avoir un mâle dans la ruche à ce moment-là, puisque pour pondre des œufs fécondés qui donneront naissance à des ouvrières, elle va féconder ses œufs à partir du sperme qu'elle a emmagasiné dans sa spermathèque lors de son vol nuptial dans les premiers jours de sa vie.
Qu'est-ce qui confère à cette abeille le statut de reine?
En fait, c'est la colonie qui va décider de créer une reine à partir d'un œuf qui donnera naissance à une larve au bout de 3 jours. Donc les abeilles, les jeunes nourrices, vont nourrir ces larves exclusivement à la gelée royale. Et c'est la nourriture qui fait la différence entre une ouvrière et une reine.
Alors, parce que j'ai compris, il peut y avoir plusieurs reines au départ, hein, c'est ça?
Lorsque les abeilles décident d'élever une reine au moment d'un essaimage ou en préparation d'un essaimage, hein, ce qui est un phénomène naturel pour les abeilles sociales, la pismellifera, effectivement, donc la colonie va nourrir plusieurs larves à l'âge des royales et va construire plusieurs cellules royales.
Quel est le rôle alors de celles qui vont chercher, qui vont butiner, les butineuses? Quel est leur quotidien?
Le quotidien des butineuses, c'est de se lever très tôt et de partir butiner et de faire des allers-retours toute la journée pour ramener soit du nectar, soit du pollen ou de l'eau. Puisqu'il faut une quantité d'eau importante pour la climatisation et pour l'hydratation, bien sûr, de tous ces insectes.
Quel est le rayon d'action d'une ruche?
Les abeilles peuvent aller jusqu'à 3 km butiner, mais on préfère qu'elles aient une ressource très proche, une ressource mellifère très proche, c'est-à-dire du nectar, du pollen et de l'eau très proche, parce que faire beaucoup de chemin, c'est pas le circuit court, et c'est des coûts, c'est de l'énergie, donc l'énergie, c'est du miel, donc c'est consommer du miel, et ça sera du miel en moins à récolter.
Quand on dit miel de lavande, miel d'acacia, ça veut dire qu'il y a de la lavande, de l'acacia tout autour de la ruche, c'est ça le principe?
En général, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, on récolte les miels d'acacia, donc les apiculteurs qui récoltent actuellement le miel d'acacia, ils ont vidé leur hausse de miel de tout le miel de printemps avant la floraison d'acacia. Ils ont remis ces hausses vides au-dessus de leur ruche, au début de la floraison d'acacia, et à la fin de la floraison d'acacia, ils récoltent ce miel. Donc comme les ruchers étaient présents dans des lieux où il y avait beaucoup d'acacia, très majoritairement, c'est ces fleurs-là qui sont butinées, presque exclusivement, et on a un miel d'acacia.
Il y a des prédateurs également. Alors qui sont les prédateurs?
Les prédateurs, l'apiculture n'est pas un long fleuve tranquille, et pour ces abeilles, c'est pas un long fleuve tranquille. Les prédateurs, on parle beaucoup du frelon asiatique actuellement. Alors lui, il est gros, il se voit, il pose un problème parce que c'est assez nouveau, et il stresse beaucoup les colonies, c'est-à-dire qu'il se met en vol stationnaire devant les ruches, et il attrape des abeilles, et donc les colonies se mettent en mode défense, et sortent peu butinées, donc ça bloque vraiment la production. Et puis après, il y a d'autres parasites comme les varroas, comme la fausteigne. Le varroa, par exemple, c'est un parasite qui est arrivé, c'est un acarien qui est arrivé dans les années 80 et quelques, et qui aujourd'hui pose vraiment un gros problème en apiculture, parce que il est présent dans toutes les ruches. C'est très compliqué de s'en débarrasser, donc il y a quelques traitements et surtout des mesures préventives pour garder ces colonies en bonne santé. Ouais.
On s'est beaucoup inquiété de la population des abeilles ces dernières années. Est-ce qu'on est toujours sur une décrue?
L'apiculture est très compliquée, et c'est très compliqué pour les abeilles, non seulement pour les abeilles domestiques mellifères, mais pour les abeilles et les insectes en général, sauvages bien sûr. Donc aujourd'hui, les apiculteurs qui avant avaient un souci, c'était de produire du miel, aujourd'hui ils ont un souci premier avant de produire du miel, c'est d'avoir des abeilles. Donc il faut faire de l'élevage, il faut élever des reines, il faut sans arrêt démultiplier son cheptel pour avoir des ruches. Et l'année dernière, 2021, a été catastrophique en production de miel. Ça a été 7000 tonnes en France, alors qu'on consomme 40 000 tonnes de miel en France. Donc ça veut dire une importation très importante de miel de souvent assez mauvaise qualité, voire même adultéré. C'est un vrai problème. Un petit chiffre qu'on aime bien citer, nous, c'est qu'en 2021, si on a produit 7000 tonnes de miel, on a consommé globalement en agriculture 70 000 tonnes de pesticides.
Alors quelle est la solution?
La solution aujourd'hui...
C'est l'abeille en ville par exemple?
Alors l'abeille en ville, c'est pas une solution de production pour produire les 40 000 tonnes de miel que l'on consomme. L'abeille en ville, je pense que c'est un moyen d'alerter et de dire quelle est cette incohérence de pouvoir aujourd'hui avoir des abeilles qui vivent en ville et ne pas pouvoir avoir des abeilles en campagne et avoir des taux de mortalité aussi importants. Voilà. Donc c'est plutôt le rôle sentinelle de l'environnement, et c'est un moyen de sensibilisation, et voilà, mais qui reste limité quand même aujourd'hui.
Ça peut être aussi l'installation de ruches dans des zones, je dirais, AOP ou AOC?
Aujourd'hui, pour l'apiculteur, c'est sûr que les zones de grande culture, d'agriculture intensive, il oublie en général. Là où on a du maïs, maïs à perte de vue ou des céréales à perte de vue, on a des déserts de biodiversité. Donc, on va plutôt rechercher effectivement de la diversité florale et aller dans des zones de petites montagnes, voire de montagnes, et plutôt des zones d'élevage que des zones d'agriculture aujourd'hui. Oui.
L'apiculteur Alain Chevalier. Notez également ce site internet apiflordev.org qu'anime Alain Chevalier. Apiflordev est une association de solidarité internationale qui se propose de changer la vie des plus pauvres en les formant et en les accompagnant à l'apiculture moderne. La 5e édition du festival Intérieur Cuir jusqu'à dimanche, un festival qui questionne les représentations des genres et des identités sexuelles tout en mettant à l'honneur les musiques actuelles. Le Hit, le Sucre, le Transborder, la Madone, le Loupika, le Centre LGBTI+, et la Galerie Kashagan abritent la plupart des manifestations liées au festival. Vintage Football Area, référence française de la revente de maillots vintage en ligne, lance une boutique éphémère dans le 2e arrondissement. Plus de 200 anciens maillots de l'Olympique Lyonnais vont par exemple être mis en vente avec, dans le lot, quelques pépites. La boutique est ouverte à partir de ce vendredi au 25 rue du Port du Temple, près des Jacobins, et jusqu'au 24 juillet, près de 2500 uniques, parfois même portées par des joueurs en match, seront en rayon à des prix divers et variés. L'année, l'état du maillot, le nom du joueur floqué, s'il a été porté ou pas, autant d'éléments qui vont jouer sur le prix. À titre d'exemple, sur le web, on peut s'offrir le maillot d'Anthony Lopez porté en Coupe de France lors de la saison 2014-2015 pour 299 €, des prix raisonnables. Entre 30 et 100 € sont en revanche proposés pour des vieilles tuniques qui n'ont pas été portées. On retrouvera dans la boutique éphémère à Lyon des maillots portés par exemple par Claudio Cassapa ou par le Brésilien Fred. Le magazine Time Out vient de publier la 5e édition de son palmarès annuel des meilleures villes au monde en 2022. Lyon y fait son entrée dans le top 20 mondial à la 19e place, tout juste devant New York. La capitale des Gaules devance des villes comme Buenos Aires, Stockholm, Tokyo ou encore Lisbonne. Lyon termine même loin devant Paris. La capitale est en effet à la 32e place. Le classement est dominé par Édimbourg, Chicago et Medellin. Pour établir ce classement, le magazine recueille des réponses de milliers d'habitants concernant leur ville natale. La ville de Lyon est plébiscitée en raison de la présence du Rhône et de la Saône, du parc de la Tête d'Or, mais également pour le vin, avec la vallée du Rhône et le Beaujolais. Autre atout mis en avant, la présence de centaines de kilomètres de pistes cyclables. Les événements ne sont pas oubliés, sont cités les concerts au Théâtre Romain, ainsi que la Fête des Lumières. La ville est reconnue pour sa gastronomie, sa douceur de vivre et sa volonté de développer un tourisme plus responsable. Fin juin, Lyon a été déjà reconnue comme la 25e ville au monde, où il fait bon vivre, selon une étude de The Economist. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve bien sûr lundi.